Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui un thème exceptionnel, le jeu de rôle et la Suisse. On a le président de l'UDESCO avec nous, Thomas, ça va? La pêche, la patate?
Ça va bien, salut.
On est à l'UDESCO justement, tu vas nous parler de la convention, comment ça s'est passé cette année. On est aussi avec Georges-André. Georges-André, ça va?
Oui, bonjour, oui, ça va bien. Après près de 40 heures de jeu, tout roule.
Ça va bien, l'organisation et tout, c'était pas trop... J'ai l'impression que tu te baladais pas mal, là, t'as fait des efforts physiques, là, t'as fait du sport, là.
Oui, alors pour moi, c'est un week-end marathon, fais pas mal de kilomètres, mais c'est avec plaisir, parce que les gens ont l'air contents, il y a du monde,
ouais, c'est bon, hein.
Il faut courir.
Lionel Jeannerat est avec nous, Lionel, ça va la pêche?
Oui, ça va bien.
Alors toi, Suisse et JDR, c'est même carrément un de tes projets, quoi, Suisse voilà. Made JDR.
Voilà, évidemment. Et puis, j'ai aussi l'honneur de faire partie de l'organisation de l'UDESCO.
Ok.
Voilà, il n'y a pas grande chose de plus à dire, mais je suis vachement content d'être sur le podcast de la cellule.
Sylvie est avec nous également. Sylvie, ça va la pêche?
Oui, tout à fait. Aussi très contente de cette troisième édition de l'UDESCO.
Ouais. Tu fais partie de l'organisation depuis longtemps?
Depuis la fondation, oui. La responsabilité...
Attention à ton micro, petite Sylvie.
Pardon.
Voilà, tu vois, on l'oublie. C'est bien si tu oublies le micro, ça veut dire que tu vas être naturel et tout. Oh là.
Oui, donc à l'animation, responsable animation les deux premières années et cette année responsable uniquement jeu de rôle avec Christophe.
D'accord, ok. Christophe qui est avec nous. Christophe, ça va? On ne te présente plus sur le podcast de la cellule, tu es une
bonjour
sommité.
À tous. Ah, merci.
Même, on parle de toi à tous les podcasts, même si tu n'y es pas, alors c'est extraordinaire ça. L'administrateur de Silent Drift, mon chouchou préféré. Mon homme à moi, mon Christophe, est avec nous. Et donc toi aussi, tu fais partie de l'UDESCO.
Je crois que certaines personnes contesteraient cette appellation.
Et donc toi aussi, alors t'es comme Sylvie, tu fais partie de l'organisation jeu de rôle de l'UDESCO.
Juste pour le jeu de rôle, voilà.
D'accord, ok. On va commencer par un petit bilan de la convention, de peut-être même un petit bilan historique. Qu'est-ce que l'UDESCO? D'où ça vient? On va laisser la parole peut-être à son président, Thomas. Alors, l'UDESCO, est-ce que tu pourrais présenter pour nos éditeurs?
Ah oui, l'UDESCO, c'est une convention de jeux de société, mais aussi convention de jeux de rôle.
D'accord.
C'est une convention donc multiludique. On a appelé ça festival de jeux parce que le but, c'est d'attirer autant bien des joueurs passionnés qui vont comprendre tout de suite, ils vont percuter s'ils entendent de convention, ils vont se dire ah ouais, cool, jeu de rôle, etc.
Ouais.
Mais festival, ça fait peut-être un peu plus grand public. Donc
d'accord.
Voilà, l'idée, elle est venue il y a 3 ans. Il n'y avait plus de grands événements ludiques dans les montagnes neuchâteloises.
D'accord.
À côté de moi, j'ai Gab, Georges-André, qui pourra vous parler de l'ancêtre de l'UDESCO. C'était une convention, les conventions du club Shazam.
D'accord.
Et le club a disparu et pendant une dizaine d'années, il n'y a plus rien eu. Et l'idée a été de dire, ben voilà, il y a des joueurs ici, il y a plein de nouveaux jeux à découvrir. Refaisons un grand événement et ça fait 3 ans donc que l'UDESCO existe.
D'accord. Quelque chose à ajouter, Georges-André, sur ce que vient de dire ton président?
Alors effectivement, je suis content puisque je suis un peu l'ancêtre ici dans l'équipe d'organisation,
ouais.
Vu l'âge. Mais donc effectivement, dans les années 80, le jeu de société est apparu sous les formes qu'on connaît maintenant.
Ouais.
On a fait des événements comme des mini-conventions sur un week-end. Et c'est ça qui a fait que la ville de la Chaux-de-Fonds est connue dans la Suisse française et francophone depuis comme un lieu ludique.
Ouais.
Et je suis heureux et c'est pour ça que je suis revenu sur le terrain, soutenir des jeunes qui ont réactivé ça, un grand festival avec beaucoup de monde, beaucoup de jeux.
Alors c'est vrai qu'on va parler du pôle jeu de rôle tout à l'heure, mais pour l'instant on voit déjà là, ici, ça rassemble vraiment, c'est multigénérationnel, ça va comme on dit de 7 à 77 ans, il y a toutes les familles qui viennent, c'est finalement, moi pour les conventions que j'ai faites, c'est finalement assez rare un tel panel de personnes. Est-ce que vous pensez qu'en Suisse, il y a une relation spéciale aux jeux de société? Moi, je me disais que c'était peut-être parce que, comme c'était des petits villages, que tout le monde se connaissait, on aimait bien se rassembler pour jouer ensemble. Est-ce que c'est un préjugé? Blastez-moi la gueule,
Heidi,
Lionel.
La petite fille des montagnes, Heidi.
Alors, est-ce que c'est un préjugé ou... Parce que là, vraiment... En France, on verrait peut-être pas ce rassemblement multigénérationnel aussi facilement, j'entends.
Non, ça fait aussi, je crois, partie du projet du festival. de véritablement rassembler autant bien les néophytes que les joueurs expérimentés. Donc on axe notre programmation sur justement cette dualité des joueurs.
D'accord.
Et effectivement, la communication, on le dit, on vise pas forcément le public vraiment enfant-enfant, ouais. Même s'il y a une salle spéciale pour les enfants, mais on dit vraiment c'est un festival de 8 ans à 888 ans pour ouais. L'elfe Sylvain qui s'était perdu dans les bois de la Chaux-de-Fonds.
Ça roule. Est-ce qu'il y a une tradition spéciale quand même du jeu de société d'une manière générale en Suisse ? Parce qu'on parle par exemple beaucoup de l'Allemagne. On dit que par exemple les Allemands sont des grands consommateurs de jeux de société. Est-ce qu'en Suisse vous avez l'impression que c'est un sport national ou pas ? C'est des préjugés ou vous me regardez comme...
je crois que Lionel. Par rapport à la France, il y a vraiment un terreau
J'ai l'impression,
Suisse. Il y a l'UDESCO qui est un des événements majeurs de la Suisse romande, mais il y a aussi
Lionel.
La fête du jeu au Valais, il y a aussi une convention à Orchidée.
Orchidée, ouais.
Il y a aussi des clubs, pas mal de clubs en Suisse. J'ai l'impression, la Chaux-de-Fonds a une tradition aussi, je pense, Georges André l'a un peu évoqué, avec d'anciennes conventions, il y avait aussi des conventions à Yverdon ou autres. Je pense qu'il y a eu, en tout cas en Suisse romande, c'est un peu difficile de se prononcer par rapport à la Suisse alémanique, mais en Suisse romande, oui, ça, c'est vivant.
Alors tout à l'heure, Thomas, en préparation du podcast, tu disais que pour toi, ce qui comptait, c'était qu'un événement ait lieu sur le long terme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ça ? Qu'est-ce qui fait que pour toi, un événement doit vivre l'événement, c'est l'instant T, mais ça doit aussi vivre avant, ça doit aussi vivre après ?
Ouais, surtout, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est Thomas. Ce concept des 52 heures de jeu.
D'accord.
À savoir que ça ne s'arrête pas. Donc, il n'y a pas de pause, c'est à tout moment. Et je trouve que c'est dans les différents événements que j'ai eu l'occasion d'organiser, parce que j'ai fait d'autres choses que le jeu de société avant, j'ai toujours aimé ce concept de durée, parce que c'est là que tu vois l'évolution de ton événement au fur et à mesure des heures. Tu vois, ben voilà, il y a encore du monde à 3h du matin, c'est pas les mêmes catégories de joueurs. À 6h du mat, il y en a encore 2-3 qui finissent leur partie. Il commence à y avoir les premiers gamins le matin qui reviennent amener du monde vers 9h. Donc il y a véritablement différents moments. Il y a vraiment en ces 52 heures toute une vie du festival, une évolution des publics qui, moi, je trouve, m'intéresse. Je fais pas de la sociologie à 2 francs, même à 1000, mais c'est simplement que je trouve qu'on traverse différents moments. Et c'est ça que je trouve assez magique dans un événement comme ça.
En préparation du podcast, tu disais qu'avant, tu organisais des événements sportifs, sport, jeux de société. Tu sais qu'il y a un débat au sein des intellectuels autour du jeu de société pour savoir si le sport, oui ou non, est un jeu de société. Alors, comment tu distinguerais les deux ? Tiens, Pam, prends une bonne question théorique dans la tronche, là.
Ouais, effectivement, là, un premier scud. Bon, qu'est-ce qu'on va répondre à ça ? Pour moi, je distinguerai un petit peu les deux choses. Moi, j'ai une passion de l'événementiel.
Ouais.
Et c'est ça, en fait, qui m'a amené à faire effectivement un tournoi sportif et ensuite une convention de jeu. Maintenant, est-ce que le jeu de société est un sport ? Pour moi, ça dépend un petit peu des définitions que tu utilises.
C'est pas évident, question.
Non, c'est pas évident comme question. Donc,
en tout cas, il y a clairement des ponts entre les deux et t'en es une preuve vivante.
En tout cas, dans le domaine de l'événement, ouais.
Voilà.
Mais par contre, j'aime pas trop quand le jeu devient sport. C'est-à-dire que j'aime bien éventuellement jouer en tournoi, mais à partir du moment où on commence à jouer, je sais pas, pour de l'argent par exemple, je suis un gros joueur, j'ai jamais joué au poker.
Ouais.
C'est pas que le jeu en lui-même ne m'intéresse pas, mais c'est que le concept derrière, je pense que pour t'amuser, t'as besoin de jouer avec du pognon.
Ouais.
Et ça, j'aime pas.
Ouais.
Je critique pas, mais c'est pas un truc qui m'intéresse. Et donc, j'aime pas quand le jeu devient un sport. Ça doit rester un jeu, ça doit rester ludique.
Donc,
un truc sans se prendre la tête.
C'est pas, quand tu dis 52 heures de jeu de société, c'est pas une course d'endurance, hein, on est d'accord. C'est 52 heures à changer de jeu, à varier, puis effectivement, les publics qui changent. Parce que tu sais qu'il y a un événement en France qui s'appelle les 24 heures du jeu de rôle, puis qui se fait dans plein de villes différentes, en fait. C'est un événement qui est. Et où là, c'est vraiment une course d'endurance. Je vois par exemple à Poitiers, le but c'est de jouer au jeu de rôle pendant 24 heures non-stop. Je vais me dire que. Là, c'est du sport.
Ouais, bah ça, j'imagine. Donc, chacun le fait à sa sauce. Il vient soit pour une heure, soit pour les 52 heures. Par contre, celui qui fait les 52 heures pour revenir à ta question sportive, ça, c'est un vrai marathon.
Alors, parmi les jeux que vous présentez ici, il y a aussi le jeu de rôle et le pôle jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle,
Alors le jeu de rôle, Sylvie, un jeu parmi les autres, comment vous le voyez?
Est-ce que déjà ça marche le pôle jeu de rôle à l'UDESCO?
Alors je pense que, en fait, à la première édition, ça a été un petit peu difficile pour nous d'organiser le jeu de rôle, étant donné qu'on n'avait personne au sein du comité qui était vraiment dans ces cercles-là.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'on a, essayé de mettre en place peut-être quelque chose de...
Rapproche un petit peu ton micro.
Excuse. Quelque chose de plus de différent de ce qui se propose, notamment à Orchidée, c'est-à-dire qu'on a visé peut-être un public plus général.
Ouais.
Donc c'est-à-dire qu'on a mis en place très vite les initiations qui visent des gens qui ne sont pas habitués à faire des jeux de rôle. Et maintenant, à cette troisième année, j'ai l'impression que oui, ça commence de marcher de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'on a eu aussi à cette édition des joueurs de plus long, enfin voilà, plus habitués, des parties longues.
Ouais.
Et bien qu'on soit pas Orchidée, je pense quand même que l'UDESCO a un aspect jeu de rôle qui est important pour les membres du comité auquel on tient et qu'on essaye de valoriser.
Ouais. Voilà. Christophe, donc toi aussi, alors souvent on dit que les jeux de rôle que tu promeus, ou en tout cas que tu parles souvent, il se rapproche un petit peu du jeu de société. Alors, ici, tu as l'impression que ça se démontre bien, le jeu de rôle à l'UDESCO. C'est facile à expliquer aux gens.
Alors, on a effectivement une situation que j'avais jamais vécue avant. C'est qu'on a des parents qui traînent leurs enfants aux initiations de jeux de rôle.
Ouais.
On a des couples de la trentaine qui viennent et demandent « Ah, mais c'est
et
quoi
qui le... ?» Et qui reviennent aussi. Hein,
et qui reviennent, ouais. Et qui s'intéressent à ces jeux de rôle qui sont effectivement pas forcément axés sur des longues parties où on doit se retrouver plusieurs fois pour finir une campagne. On a des petits jeux facilement accessibles avec plateau pour certains.
Ouais.
Et c'est peut-être plus parlant et ça s'insère bien dans cette... idée de l'UDESCO qui se veut ouvert, il y a des jeunes qui viennent, il y a des confirmés, il y a vraiment de tout.
Et les gens globalement ressortent avec une vision positive du jeu de rôle ici, hein, quand ils reviennent et tout.
J'ai bien l'impression, qu'est-ce que t'en penses Sylvie?
Et c'est intéressant parce que les jeux que vous présentez à l'UDESCO, ça reste quand même des jeux, comment dire, qui ne nécessitent pas un livre de règles de 500 pages, des règles très compliquées. On a vu des petits jeux avec 30 pages de règles qui s'expliquent très très bien. C'est un choix ça aussi que vous avez fait de présenter ces jeux-là parce qu'ils sont plus accessibles à un certain public?
Ces deux dernières années en tout cas, ça a vraiment été un choix parce que c'était aussi un argument. En fait, ce qui m'avait surtout frappé à la première édition, c'était qu'en discutant avec des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle, ils disaient « Ah non, mais moi, aller m'enfermer dans une salle pendant 14 heures, c'est exclu. Lire ces livres, c'est des thématiques qui ne m'intéressent pas, etc. » Donc c'est vrai qu'après, on a visé des jeux, typiquement quand on a pris le panel pour les initiations, des jeux qui ont d'autres thématiques, qui ont des thématiques plus abordables, beaucoup moins de règles, ce qui permet en fait de lancer des parties en une heure. Et les gens sont d'accord de prendre une heure pour découvrir ça, pas forcément 5, 6 ou 8 heures.
Et donc c'est intéressant du coup d'avoir des jeux qui permettent de découvrir assez rapidement les premières expériences. Et ça fonctionne bien. Moi j'ai une vision un peu con du jeu de rôle où il faut que ça dure longtemps pour prendre du plaisir, tu vois. Plus c'est long, plus c'est bon un peu. Et je me demandais si ces petits jeux, du coup, ça va. Les gens, ils ont les bonnes sensations, ils ressortent sur...
Si je prends les initiations qu'on a fait...
Sur quel jeu, par exemple? Est-ce que tu pourrais citer les jeux pour les auditeurs?
Sur cette édition, on a joué à Prosopopée.
Ouais.
On a fait quelques Parsley Games, des zombies cinéma.
Ouais.
Et par rapport au plaisir de jeu, je pense que les gens sont ravis. Les personnes qui ne connaissent pas le jeu de rôle... ils ont beaucoup de plaisir, notamment hier soir, on a fait une partie de Prosopopée assez. Ça a duré quoi, une heure. Et les gens étaient ravis, ils ont dit qu'ils voudraient continuer de jouer chez eux. Donc, oui, je pense qu'il est possible d'avoir du plaisir en peu de temps.
En peu de temps, ouais, du coup. Ouais. Et de bien comprendre ce que c'est que le jeu de rôle en peu de temps, c'est possible.
Ça,
ouais. C'est Christophe, tu vas opiner du chef.
Oui,
j'opine du chef. pas grand chose à rajouter.
D'accord, ça marche. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de présenter le jeu de rôle à l'UDESCO? Est-ce qu'il y avait un but politique derrière de présenter ce jeu parce qu'il est un peu méconnu ou ce genre de choses?
Là, je laisse la parole à Sylvie puisqu'elle était là dès le début.
Sylvie?
Pour moi, l'UDESCO a été aussi la rencontre avec ce type de jeu que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que la première édition. Et à partir de la deuxième, je me suis dit que ça pouvait être aussi une tribune intéressante, notamment parce que les jeux que défend Christophe. Mmh. Et que c'est Après, politique, je ne sais pas, mais c'est simplement, je pense, le type de jeu qui se prête le plus à l'UDESCO, à faire découvrir aux gens, plutôt qu'une volonté politique, c'est peut-être un peu de... Voilà, comme si les deux types correspondaient bien.
D'accord, ouais. Ok.
Voilà.
Lionel, tu veux...
Moi, j'aimerais vraiment féliciter le travail qu'a fait Sylvie. Je pense que ça ne s'arrête pas à des petits jeux. C'est que le jeu de rôle se développe, et aussi sur les grands jeux, c'est que c'est...
Alors, quand je dis petit jeu, je ne dis pas par l'esprit. Hein. Je dis par la taille du texte.
Durée, mais il y a eu ce week-end des parties de 6 heures de crime et d'autres jeux, Insectopia. Enfin, pas mal de créations maison aussi, faut le dire, et qui a été extrêmement appréciée. Enfin, on sent vraiment que le jeu de rôle n'est pas le parent pauvre de l'UDESCO.
D'accord.
Par exemple, le principal invité de la convention, c'est Pen of Chaos, auteur du Donjon de Nihilbuck, qui a fait une conférence sur le jeu de rôle, alors que la majorité des gens qui viennent à l'UDESCO, ils viennent pour du jeu de société. Donc c'est pas juste on fait un petit peu de jeu de rôle parce qu'il faut bien en faire un petit peu. Thomas... Il y a vraiment une volonté de l'organisation de donner une vraie place.
Thomas, tu voulais intervenir ? On passe un micro ?
Ouais, je voulais dire qu'effectivement, moi je suis plutôt un joueur de plateau, même si j'ai fait du jeu de rôle, hein, des antiquités, Stormbringer ou des trucs comme ça.
Ouais.
Et c'était une volonté dès la première édition, effectivement, d'avoir les deux pôles. Et ce que je suis très très content, et grâce au travail remarquable de tous mes compères ici autour de la table, le pôle jeu de rôle se développe. Oui. Et c'est vrai, hier j'étais à la conférence de Pen of Chaos, et j'ai vu une salle comble qui chantait des chansons que je ne connaissais pas. Et quelque part je me suis dit, il faut encore qu'on développe ce jeu de rôle, il faut vraiment qu'il y ait ces deux pôles, tu parlais de pôles, je crois que c'est toi qui as utilisé le mot, et que ces deux pôles se rencontrent vraiment.
En tout cas,
c'est une vraie volonté.
Le fait est qu'ici, en fait, vu la pluralité des publics, vu la comme vous disiez tout à l'heure, de 8 à 888, c'est ça, je ne sais plus, y a vraiment moyen d'élargir le public du jeu de rôle. Alors que je vois par exemple en France, souvent les conventions sont fréquentées par des personnes qui connaissent déjà, en fait, des spécialistes qui viennent ici avant tout pour se rassembler, pour rassembler des associations. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, le rôle de l'UDESCO n'est pas le rôle que l'on octroie en général, en tout cas dans les conventions que je fréquente dans le nord-ouest de la France, beaucoup, hein, dans le Grand Ouest on va dire, n'est pas la vocation principale des autres conventions auxquelles j'ai participé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, il y a vraiment un échange direct, alors que dans les autres conventions, c'est plutôt des rassemblements d'associations pour se retrouver et jouer tous ensemble, ce qui est convivial aussi, mais les gens malgré tout se connaissent. Il y a moins d'informations près du grand public, si tu veux. C'est là-dessus que je voulais attirer l'attention. On parlait des créations de l'UDESCO tout à l'heure. Est-ce que l'UDESCO est productive ? Est-ce qu'il y a des choses qui sortent ? Est-ce qu'il y a des books, des recueils, des albums de photos de l'UDESCO ou des choses comme ça ? Est-ce que vous faites... est-ce qu'il y a des... Je ne sais plus.
Non, il n'y a pas vraiment ça. Il y a deux, trois projets qui ont été imaginés, je crois, au courant de cette convention. Je ne sais pas si Lionel voudrait en dire un mot, mais je pense que c'est un peu...
En fait, je pensais notamment au concours de Bill Bokeh, là, qui est juste en face de nous, là.
Oui.
C'est...
Ok,
c'est,
ouais, bon,
c'est original, y a des... ça, quand même.
Effectivement. Alors ça, après, il y a des concepts l'UDESCO. On essaye effectivement d'amener des animations originales pendant le week-end.
C'est quoi,
pendant
ça,
le week-end.
Bill Bokeh, là. Il y a un mec qui...
Écoute, il y a un mec qui vient... En fait,
24 heures, là.
Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est... On est comme des vampires. On puise les bonnes énergies ou les mauvaises énergies, mais elles sont généralement bonnes. En tout cas, les gens qui ont envie de faire quelque chose. Donc, d'accord, on va puiser le sang de victimes qu'on a choisies. Et Toyman en fait partie. Donc Toyman, c'est un gars qui nous a dit, moi j'adore le Bill Bokeh, j'aimerais faire un truc, j'aimerais faire le record du monde du Bill Bokeh. On lui a dit ok, on t'invite, mais tu nous fais le record du Bill Bokeh. Il est allé lui puiser l'énergie d'une haute école d'ingénierie qui est basée dans la région. On lui a fabriqué dans un Bill Bokeh en bois un capteur électronique qui compte automatiquement le nombre de coups. Et il a fait ses 24 heures de Bill Bokeh et on a eu 12 481 coups, je crois. Ça fait un coup réussi toutes les 7 secondes. Pendant 24 heures. Donc voilà, c'est ce genre de projet. Le jour où quelqu'un vient me dire, j'aimerais faire, je sais pas, une partie de jeu de rôle qui dure les 52 heures, je lui dis, mais fonce, gaillard. Donc c'est vraiment comme ça. On développe des idées dans le comité.
Des entreprises événementielles, si j'ose dire, quoi, au cours des projets événementiels au cours du salon.
Exactement. Voilà. Nous, on a un petit comité. Et le but, c'est justement, s'il y a d'autres gens qui sont motivés par monter un projet, ben, on leur donne un espace à l'UDESCO. Ça, c'est aussi l'esprit du festival.
D'accord, ok. Lionel, toi, sur Internet, on te connaît aussi parce que tu as un projet qui s'appelle Swiss Made JDR. Quel est le sens de ce projet? Pourquoi est-ce que de l'extérieur, ça fait très bizarre, en fait. On dirait une espèce de nationalisme du JDR. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, qu'est-ce que c'est que ce
délire? C'est plutôt du régionalisme.
D'accord.
Pourquoi je l'ai lancé? Donc, l'idée m'est venue parce que les gens qui font avec qui je fais beaucoup de jeux de rôle, que je retrouve en convention, mes amis, etc., sont suisses, à part quelques exceptions de Silent Drift, dont toi, Romaric. Ben, j'avais envie de parler de ces gens que j'apprécie, qui créent des événements, qui offrent de leur temps. Puis j'avais envie finalement de donner une tribune pour parler de tous ces projets que je trouve très intéressants. J'ai eu envie de parler de NAM 68 dans mon dernier numéro, qui est un jeu de rôle que les rôlistes suisses qui vont Orchidée connaissent, mais qui ne sont pas connus ailleurs.
Alors, NAM 68, est-ce que tu pourras en parler sur le podcast de la cellule, comme ça
Ben, c'est un jeu de rôle qui se déroule durant la guerre du Vietnam.
Tu connais pas, Christophe? Je te vois faire des grimaces.
Dans la guerre du Vietnam en 68. C'est un jeu simulationniste où on veut montrer les duretés de la guerre. Donc, c'est un jeu, je pense, qui a été beaucoup testé, qui a été longuement développé. Je pense qu'il est arrivé à maturité là maintenant. J'ai eu l'occasion d'y jouer. Ils pensent en faire une édition. Puis je pensais que c'était intéressant d'en parler.
Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette frontière finalement imaginaire entre la Suisse et la France qui fait que le jeu de rôle des uns et des autres.
Mais.
Déjà, Christophe, t'as pas l'air d'être d'accord, t'as l'air de froncer les sourcils. Christophe.
Je ne sais pas s'il y a tellement une frontière dans le sens où typiquement l'équipe de 2D100 en face est composée certes de Suisses mais aussi beaucoup de Français qui viennent régulièrement en Suisse. On a les écuries d'Ogias qui viennent depuis 2 ans, 3 ans. L'UDESCO, on a la FFJDR qui a un représentant suisse. Enfin, c'est... Il me semble qu'il y a quand même pas mal d'échanges. Donc
on m'a quand même.
Et puis les Suisses jouent au jeu de rôle français parce qu'on partage la langue.
Ouais. Oui, c'est vrai. Non, ça c'est très juste. Lionel.
Alors, je suis d'accord avec Christophe. Il n'y a pas vraiment de frontières. Moi, j'ai voulu parler de manière limitée en me fixant un cadre. Il se trouve que c'est un cadre délimité de manière géographique qui correspond aussi à des frontières politiques.
C'est pas
voilà, c'est tout. Je pense que c'est plus du régionalisme. Je parle de la Suisse romande, enfin du jeu de rôle en Suisse romande, comme une région de la francophonie. D'accord. Tout comme il pourrait y avoir un même média pour la Normandie, la Bretagne. Voilà.
Je sais que les Normands parlent de ce genre d'initiative. Les Normands, par exemple.
Oui, ben, je les encourage parce que c'est une bonne expérience. Ça fait parler de projets locaux. Voilà, et puis c'est gratuit sur Internet. Alors moi, je le fais pour mon plaisir. J'avais promis 3 numéros, j'en ai écrit 2.
Ouais.
Le 3e est en cours. Il parlera essentiellement de toutes les problématiques de la conservation du jeu de rôle et des bibliothèques. Étant donné que la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds a pris l'initiative de lancer une collection de jeux de rôle à la rentrée scolaire de cette année, en 2012 encore.
Ouais.
Et il y a également un Suisse qui était d'ailleurs, qui a masterisé à l'UDESCO, Alias de Tigre Volant, qui est un projet de bibliothèque électronique pour mettre en ligne, avec l'accord des auteurs, des ouvrages qu'on ne peut plus trouver dans le commerce de jeux de rôle.
Est-ce que tu trouves, si tu veux Lionel, est-ce que tu trouves, parce que là tu parles des initiatives suisses très bien, est-ce que tu trouves qu'il y a une originalité suisse du JDR, une particularité de la région en fait? Un petit peu comme le fromage.
Je veux dire...
Le jeu de rôle qui pue.
Et effectivement.
Et quelle est votre intuition à vous aussi
Alors... Alors, je vais te donner quelques spécificités. Ensuite, y a le fait que le jeu de rôle est très mal distribué en Suisse. Ça, c'est une réalité.
On parlait tout à l'heure sur le stand, Sylvie, des prix des livres. Tu confirmes que les livres sont plus chers en Suisse, qu'il y a
C'était en tout cas dans la littérature de manière générale. C'est toujours intéressant quand on va dans une librairie, on regarde, il y a le prix en euros, c'est par exemple 10 euros.
Ouais.
Et le livre, il est 19 francs suisse. Ouais. Donc ce qui ne correspond pas du tout au taux de change.
Je ne comprends pas. Comment t'expliques ça ? Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Je suis pas dans l'édition, mais ce que j'imagine, c'est qu'il y a un renchérissement qui est dû en fait au fait que le coût de la vie en Suisse est plus élevé, et donc ils se permettent de faire des prix plus importants, ou alors c'est la distribution, je sais pas.
Jean-André.
Oui, je pense que l'effet principal, c'est que malheureusement pour nous et pour beaucoup d'habitants de ce pays, la Suisse fait pas partie de l'Europe.
D'accord.
Et donc on est comme ça coupé de tout le réseau européen. Et il y a des importateurs, il y a des frais de douane.
Oui.
Mais c'est ça essentiellement qui fait que, à la fois le jeu de rôle, la littérature, mais aussi le jeu de société, se retrouvent à des tarifs beaucoup plus hauts que juste de l'autre côté de la frontière. Ce phénomène qui ne se retrouve pas en Europe, puisque là, il y a une libre circulation et des personnes et des marchandises. Tandis qu'en France, en Suisse, il y a vraiment des barrières autour et il y a des gens, ma foi, qui prennent une taxe au passage.
C'est incroyable ça. Moi, quand j'ai appris ça, je trouvais ça. Sylvie.
Mais j'étais même surprise qu'on essayait de commander un livre électronique sur Amazon. Amazon France, le livre était 12. Combien c'était ? 12 euros, je crois. Amazon Suisse, donc un livre électronique. Hein, donc là, il n'y a pas de question d'importation de matériel et tout. Et il était presque le double en France-Suisse.
Donc en fait, en gros, la seule explication que vous donnez et qui vous semble crédible, c'est bon, ils savent qu'on a du pognon, donc ils nous taxent sur les bouquins. En gros, c'est ça, quoi.
Alors, c'est vraiment les distributeurs qui font un espèce de travail, entre guillemets, de dédouanement.
Attention à ton micro.
Oui. C'est les distributeurs qui font font payer le travail du dédouanement.
Ouais.
Maintenant, c'est sûr que, sachant que le niveau de vie est un petit peu plus haut en Suisse que en France principalement, on peut un petit peu faire des prix, mais le niveau de vie en Allemagne est largement comparable avec le niveau de vie suisse, et en Allemagne, les jeux sont très bon marché. Il y a aussi un autre effet, c'est que en Allemagne, il y a énormément de gens qui jouent, donc le marché du jeu est presque de grande surface.
C'est pas pareil en Suisse ? Je m'attendais à ce que ce soit pareil en Suisse, en fait. Vu la convention, je me suis dit, en fait c'est presque pareil qu'en Allemagne, ici.
Alors, je dirais qu'à la Chaux-de-Fonds, c'est presque pareil en Allemagne, parce qu'il y a un peu cet esprit, mais c'est pas forcément visible dans d'autres villes. Vous allez en grande surface en Suisse, vous trouvez les jeux traditionnels comme vous trouvez en grande surface française.
D'accord.
Par contre, il y a dans chaque ville moyenne, puisqu'en Suisse, c'est que des villes moyennes, vous avez une petite boutique spécialisée, mais c'est sûr qu'il n'y a pas la diffusion en nombre d'exemplaires que peuvent avoir les grandes surfaces. Mais en grande surface, on ne trouve pas les jeux qui sont joués à l'UDESCO. L'UDESCO fait jouer les jeux qu'on trouverait dans les boutiques françaises spécialisées.
D'accord. Et donc vous avez aussi vos boutiques spécialisées, en fait.
On a aussi nos boutiques spécialisées, mais vu leur taille, c'est clair qu'elles touchent un public restreint de connaisseurs qui ont des amis qui les ont fait jouer à, et qui à ce moment-là leur disent « Mais j'essaie d'acheter ce jeu, je ne le trouve pas. Ah oui, il faut que tu ailles dans cette boutique-là, parce qu'au supermarché, tu ne vas pas le trouver. »
Alors, est-ce que toi, Lionel, quand tu as sorti Swiss Made JDR, c'était aussi pour parler de ce genre de problème ?
Tout
pour dénoncer, peut-être.
Là, on a parlé du jeu de société. Georges André est un spécialiste, étant donné qui travaille dans un magasin. Pour le jeu de rôle, en fait, il y a beaucoup de jeux qui sortent en France qui ne sont juste pas disponibles en Suisse. On est diffusé en retard,
j'étais
etc.
J'étais outré d'apprendre l'autre jour, Sylvie, tu confirmes que les jeux de la boîte à eux que tu as traduits ne sont pas disponibles dans les magasins suisses. C'est vrai ?
Je ne crois pas, en tout cas, j'ai jamais vu. J'imagine pas qu'ils doivent être distribués en Suisse.
Alors, il y a ceux-là et il y en a beaucoup d'autres. En fait, à part les jeux de rôle qui ont des gros tirages, Donjons et Dragons, Pathfinder, Warhammer, les autres jeux n'ont aucune diffusion en Suisse.
Mais...
Et puis, je pense que ça crée une certaine spécificité, parce que en Suisse, il y a peu de jeux. Donc, quand on veut quelque chose, on le crée. Et je crois, et ça on le voit à l'UDESCOM, on le voit aussi à Orchidée ou à d'autres conventions, il y a beaucoup de créations originales.
Mais
parfois plus que par rapport à lorsque je vais en convention en France.
D'accord, donc tu penses que finalement le fait qu'il y ait moins d'offres, ça fait que les joueurs la créent eux-mêmes finalement ? Donc il y a plus de créativité.
Oui, je pense qu'il y a un effet comme ça. Alors c'est pas calculable, c'est pas mesurable, mais c'est quelque chose. Enfin, mon intuition me dit que c'est peut-être ça.
Je pense à en France, il y a beaucoup de créations individuelles aussi. Hein. Je sais pas. Je pense que c'est un préjugé, ça, Lionel. Mais bon.
Peut-être, ouais, peut-être.
Mais ça peut. Bah,
vous avez plein de préjugés sur nous aussi.
Ouais, tout à fait. Georges-André, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, alors en fait, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, même si la Suisse est très célèbre, c'est un confetti. C'est-à-dire que des gens qui parlent la langue française en Suisse, c'est peut-être 1 million de personnes au maximum. La Suisse a 7 millions d'habitants. Et donc, c'est clair que si tu rapportes ça rien qu'à la France, quand on sait le nombre de personnes qui habitent la région parisienne ou même la région lyonnaise ou la région de Marseille, on voit tout de suite à ce moment-là à quelle échelle la Suisse est confrontée, d'où ces problèmes de distribution.
Alors, peut-être, peut-être, mais là où je pense que les Français ont bien conscience que la Suisse, ça reste quand même une plateforme européenne très importante, parce que c'est un pays qui est massivement polyglotte, dans lequel il y a beaucoup de langues de parler, et donc ça permet de toucher à la fois l'Italie, l'Allemagne, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois.
Oui, mais alors
Jean-André.
C'est de loin pas un avantage, parce que c'est justement toute la difficulté, c'est que quelqu'un qui voudrait amener un produit en Suisse doit sur le paquet mettre le texte en allemand, français, en italien. Et voilà, et la publicité doit aussi être conçue différemment parce que la partie alémanique ne répond pas au même code, entre guillemets, culturel que la partie romande et que la partie italienne. Mmh. Donc je pense qu'on aimerait bien que ça soit une richesse, mais je pense que pour plein de projets, c'est une difficulté.
Thomas.
Sur le jeu de plateau, on le voit aussi sur le. L'UDESCO organise un concours, le Swiss Gamers Award, qui est en fait le prix suisse du jeu.
Oui.
Et on le voit en fait dans le vote des clubs participants. Le concept du Swiss Gamers Award, ce sont les clubs de jeux qui désignent leurs 5 jeux préférés. Mmh. Et en fait, bon, le jeu qui gagne est toujours un jeu qui est disponible à la fois sur les marchés francophones et alémaniques.
Oui.
Par contre, dans les places accessites, on voit que certains jeux sont connus des clubs romands et appréciés des clubs romands, et que c'est d'autres jeux qui sont élus par les clubs alémaniques. Et
d'accord.
En fait, le podium est toujours composé de jeux qui a à la fois su trouver une distribution et des joueurs sur les deux parties de la Suisse. Mmh. Et j'oublie mes amis tessinois. Mais c'est complexe.
Comprenez le paradoxe pour un Français qui débarque. On lui dit, non mais attendez, ici, on prend le risque de vendre les livres beaucoup plus cher. Et en même temps, les Français n'exportent pas en Suisse. Ah, c'est bizarre. C'est-à-dire que, franchement, moi, mon intérêt, si je suis Français et que je sais qu'ici, vous achetez les livres beaucoup plus cher, c'est d'exporter en Suisse à mort pour faire du bénef sur le dos des Suisses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ?
C'est le distributeur,
Thomas,
qui va prendre ton bénef.
Moi, je suis indépendant. Quoi. C'est que c'est tout le fric, il est pour moi. Quoi.
D'accord, bah écoute, rien ne t'empêche d'élever les prix des bouquins qui sont vendus ici.
En fait, si j'ai appris que c'était plus élevé, c'est parce que quand j'ai dit à un gars là, sur mon stand que je vendais mes bouquins 25€ en France et 30 francs en Suisse, il était presque choqué, tu vois. Quoi ? Tu fais pas de. Tu m'arnaques pas, je comprends pas. Non mais, blague à part, vous voyez le paradoxe. C'est-à-dire qu'on vous vend, on dit la Suisse c'est un pays riche, mais on n'y exporte pas nos produits. Alors c'est bizarre. Lionel, c'est.
Alors, le problème il est dans la distribution. Dans le jeu de rôle, la distribution francophone, donc je ne peux pas parler pour d'autres
pays.
Par
contre, en Belgique ça marche bien, les frontières sont.
Ouais, mais en Suisse ça fonctionne mal. Pour diverses raisons, voilà.
Il y a la frontière de la langue qui peut en fait être un.
La Belgique fait partie de l'Europe.
Ah oui, oui,
elle
bien sûr.
Pas oublier quand même.
Oui,
la Suisse,
oui, bien sûr.
Donc franchement,
c'est pas un pays francophone.
Voilà.
Ouais.
Les réseaux de distribution, finalement, s'ils envoient des choses à Marseille ou bien à Liège, pour eux, ça ne fait aucune différence.
Ouais, d'accord, okay, bien sûr.
Pas oublier les douanes qui,
c'est vrai,
qui cassent ça.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, Thomas, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, je voulais saluer les douaniers suisses.
Donc, est-ce que c'est les seuls. Est-ce que vous connaissez d'autres spécificités, peut-être, du jeu de rôle en Suisse ? On a déjà parlé de beaucoup de choses, mais. Toi, ça a l'air de te choquer comme thématique, Christophe. C'est-à-dire de dire que finalement, le jeu de rôle suisse n'a pas de spécificité particulière.
Non, c'est pas que ça me choque, c'est que j'ai jamais réfléchi en ces termes. Donc. Moi, je côtoie des Français comme toi, typiquement.
Ouais.
Lionel écrit ses jeux.
Voilà. Et c'est quand même problématique, ces histoires de diffusion, de langue, même pour un indépendant, Christophe. Non ?
De langue ? Bah, on parle la même langue en français et en Suisse romande.
Oui, mais par exemple, si je veux produire une boîte, moi, auteur de jeux indépendant, ouais. Si elle est que en français, je la diffuse qu'en Suisse romande, alors ?
Bah, il faudrait pouvoir exporter en France, et puis là, je pense qu'il faut des partenariats, alors... Ça, c'est sûr. Ça, je peux pas répondre pour l'instant.
Et 2D Sans Face, alors, donc, est la principale maison d'édition, en tout cas en France. Pour nous, c'est la maison d'édition suisse, par excellence. Ils se portent bien. Ils sont comment, 2D Sans Face ?
C'est des chouettes gars, mais je peux pas vraiment répondre sur leur fonctionnement. Ça, ouais. Je ne connais pas bien.
Jean-Gendré.
Ce qu'il faut peut-être dire, la particularité de 2D Sans Face, c'est que les gens qui sont à l'origine de 2D Sans Face sont aussi les gens qui ont effectivement... venu jouer à la Chaux-de-Fonds ici dans les premières conventions de jeux.
Oui.
Donc ils sont sur le terrain depuis bientôt maintenant près de 30 ans. Mmh. Et donc voilà pourquoi ils sont connus en France aussi, c'est que c'est un pilier historique. Tout à l'heure on a parlé de d'un auteur en fait qui a développé Alias. Et bien son jeu qui développe maintenant, qui est connu et qui est connu en France, son jeu a été créé, on a joué au prototype ici dans les années 85. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait sa connaissance.
Lionel.
Moi je voulais ajouter, donc ces gens de 2D Sans Face ont été des piliers il y a 20 ans, tu as dit, mais maintenant, notamment Antoine, il se reconnaîtra, petit clin d'œil, c'est le pilier du bar de l'UDESCO.
en tout cas, moi j'ai eu l'occasion de les croiser, les types de 2D Sans Face, ils sont venus sur notre stand hier, ils avaient l'air d'avoir des projets secrets dans les cartons, donc il va peut-être y avoir de la renaissance, le phénix, parce qu'ils avaient l'air de dire que... vu leur vie de famille et tout ça, ils n'avaient pas non plus trop le temps de se consacrer au jeu de rôle. En tout cas, moi, c'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Je regarde à cause de Nobinis, qui est probablement un de mes jeux de rôle traditionnels préférés, mais ever, quoi. C'est absolument génial comme jeu. Donc,
alors, ce qui se passe, c'est que
Jean-Gendré.
Leurs enfants, maintenant, ils ont été effectivement momentanément absents parce qu'ils avaient des vies de famille.
Bah oui.
Et maintenant, leurs enfants sont grands, donc ils se retrouvent à avoir du temps.
Et à faire du jeu de rôle avec
eux. Ils ont des bons métiers, donc ils ont de l'argent. Et voilà, ils peuvent attaquer les choses de façon professionnelle avec aussi tout un autre concept. Mmh. Ils ont appris à faire du commerce ou à être dans l'industrie. Mais ça permet de diffuser plus largement leurs idées.
D'accord. Petite question par rapport à la Suisse. Vraiment, moi, quand je viens en Suisse, j'ai vraiment quand même l'impression que d'être dans un pays étranger. C'est-à-dire, même si on parle la même langue, etc. Et ça, ça me fait plaisir, ça me dépayse, en fait. Il y avait une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous avez vécu cette crise dont tout le monde parle en France, qui a traumatisé les plus vieux rôlistes C'est-à-dire, est-ce que le jeu de rôle a été mal vu en Suisse pendant quelques années ou pas du tout? Tout le monde se refile le micro.
Alors, j'ai pas vécu
Lionel.
Cette période.
On est trop jeune, Lionel et moi,
je vais plutôt laisser la parole à Jean-Gendré qui peut-être.
Non, alors, on n'a pas du tout eu ces phénomènes de médias qui mettaient en avant des événements bizarroïdes en les reliant au jeu de rôle.
En fait, c'est juste savoir, est-ce qu'il y a eu une crise du jeu de rôle économique, juste ça, en fait. Pas forcément. Oui, parce que toute la crise de Mireille Dumas et machin comme ça, bon.
Alors, s'il y a eu une crise, je pense qu'elle est plutôt dû au fait qu'avec l'apparition des jeux vidéo et de l'augmentation de la qualité des jeux vidéo et ensuite il était plus facile et quand même de faire du jeu de rôle sur des consoles ou sur des ordinateurs.
Oui.
Et je dirais que c'est peut-être ça que beaucoup de joueurs qui seraient passés sur le jeu de rôle ou jouaient dans les années 80-90, eh bien au moment où les ordinateurs ont permis des beaux graphismes, des sons, ont pu en fait toute une génération est rentrée dans le jeu de rôle par cette porte-là.
D'accord.
Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment,
ce
public-là, après avoir joué à du jeu de rôle sur console, sur ordi, entre facilement sur du jeu de société ou du jeu de rôle plateau autour de la table parce qu'ils retrouvent un autre sentiment. Mais voilà, je pense que c'est surtout là que peut-être le jeu de rôle a changé, si on veut, de média. On n'utilise plus la table et le crayon, mais on utilise des micros et des écouteurs. Mais je pense que World of Warcraft, quelque part, c'est du jeu de rôle où c'est des tables avec beaucoup de gens. Je pense qu'on ne peut pas nier ça.
Tu penses que des trucs comme World of Warcraft mènent au jeu de rôle ? Christophe, je te voyais tiquer un petit peu sur cette réflexion.
Ouais, je partage pas cet avis, mais je sais pas si c'est très important pour cette discussion. C'est... Mmh. On est vraiment pas autour de la table, ouais. On n'imagine pas un monde, mais... Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui reviennent. Moi, j'en connais pas spécialement.
Bah, moi, par exemple, souvent, un cliché, c'est de dire que Magic a volé des gens au jeu de rôle.
Ok, moi, c'est le contraire.
Moi, c'est le contraire, ça m'a mis au jeu de rôle. Et toi aussi ?
Ouais.
Ouais, donc voilà, par exemple. Voilà un exemple. Ça, c'est pour Magic. Maintenant, jeu vidéo.
Il me semble que les boutiques ont rapetissé dans leur offre jeu de rôle.
Donc, il y a une crise aussi.
J'ai commencé il y a 10-15 ans. Il me semble qu'il y avait un peu plus d'offres, mais. On me dit que la boutique de Bienne est en train de laisser tomber le jeu de rôle. Maintenant, bon, ça c'est, je crois, aussi le problème avec les commandes sur Internet.
Moi je comprends pas ça. Moi, ça me semble paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit que le jeu de rôle ici marche, qu'il y a des tables, qu'il y a des gens qui reviennent, qu'il y a un nouveau public, que le jeu de rôle arrive à une forme de maturité quelque part, et en même temps que les magasins cessent d'en vendre. Alors, faut m'expliquer ça. Et en Suisse, ça existe aussi ce paradoxe ?
Mais il y a beaucoup d'achats sur Internet aussi. Il y a aussi du tourisme rôliste, si tu veux. Je vais à une convention à Lyon, j'ai des auteurs, il y a un jeu qui me plaît, j'achète chez eux. Je vais à Orchidée, c'est aussi en partie pour acheter du jeu. Donc en fait, les boutiques sont mal distribuées et c'est ce qui, ça les pénalise finalement. C'est qu'ils n'ont pas les nouveautés. Et puis les Suisses, ben, c'est système D. Soit ben, on crée un jeu, parce qu'on ne l'a pas. Soit on va sur Internet, c'est assez facile. Il y a certaines plateformes qui offrent même le port à arriver à un certain...
À certains types de jeux ?
Un certain montant d'achat. Voilà, pour un... Finalement, il y a des frontières un petit peu que pour les magasins.
D'accord. Ouais.
Parce que pour le Suisse lambda, la frontière n'existe pas.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que vous pouvez évaluer la population parce que les joueurs, j'ai l'impression que voilà, c'est comme en France, il y en a plein quoi. Tout le monde joue et le jeu de société est florissant. Hein. Tous les gens qui travaillent dans cette industrie disent que ça cartonne là, hein. C'est en train de tout exploser. Mais pour le jeu de rôle, est-ce que vous avez une idée un peu ? Est-ce que c'est pareil qu'en France, c'est-à-dire est-ce que c'est sous-joué ou il y a beaucoup de gens qui font du jeu de rôle ou pas ? Christophe dit qu'il ne sait pas, mais ton intuition, Christophe, je ne te demande pas de chiffres précis.
Bah, ton intuition. Je sais pas, est-ce que un des indicateurs serait pas le nombre de gens qui sont à Orchidée, qui est vraiment une convention pour le jeu de rôle, et je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de participants à Orchidée ?
Combien de participants ?
Autour des 350, 400, on disait à l'époque où j'étais dans le comité.
Ouais.
Mais justement, il y a la question du qu'est-ce qu'un rôliste ? C'est quelqu'un qui s'identifie comme être un amateur de jeu de rôle qui vit pour ça, qui passe ses week-ends à ça. Alors ça, effectivement, c'est des gens qui iront peut-être à l'UDES, non, justement pas à Orchidée.
Ouais, à Orchidée, ouais.
Et puis, est-ce que les personnes qu'on a initiées, elles ont joué, ça c'est juste, mais est-ce qu'on veut les compter comme rôlistes ? Est-ce que c'est pertinent ? C'est les gens qui ont acheté une fois un bouquin ?
Moi, je peux te proposer quelque chose, c'est de considérer les personnes, alors plutôt que rôlistes, les personnes qui connaissent le jeu de rôle, qui savent ce que c'est, de quoi il s'agit. Parce que, ouais, c'est difficile d'évaluer, peut-être. Hein. Ouais.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu le terme. Beaucoup moins qui savent ce que c'est et encore moins qui y jouent. C'est un peu une totale.
Moi, il y a un truc qui m'a frappé et ça m'intéresserait d'avoir ton avis, Thomas. Ou peut-être l'avis d'autres personnes autour de la table. Il me semble qu'il y a de plus en plus de femmes qui font du jeu et notamment du jeu de rôle. Et je trouve que finalement, il y a pas mal de tables assez féminines. Alors moi, j'avais peut-être le gros cliché du joueur qui dit « Ah non, c'est un truc de mec, ça intéresse que les gars. » Il me semble que le jeu et le jeu de rôle se féminisent. J'ai un regard extérieur. Est-ce que c'est la même chose en France ?
D'abord, on a observé nettement ce mouvement dans le jeu vidéo déjà, pour commencer. Qui est en fait, dans le niveau du jeu, un bon signal. Quoi, parce que c'est quand même un des premiers biens culturels consommés en France. C'est le premier même, je crois. 40% de femmes à peu près. Hein. Une joueuse, en gros, un joueur sur deux est une femme quand même, presque ou pas loin, quoi. Le jeu de rôle, c'est pareil. À Eclipse, par exemple, au tout début où j'y participais, c'était 10% de femmes. Aujourd'hui, c'est quasiment, on est près des 50%. Mais c'est clair, hein, ça c'est clair. Le public se féminise à fond. D'ailleurs, même sur ce podcast, on n'a aucun mal à respecter une forme de parité. Alors forcément, il y a quand même un petit peu moins de femmes, mais on entend beaucoup de voix de femmes quand même sur le podcast. Ouais,
les autres, on les a cachées.
Ouais. Mais c'est aussi parce qu'ils ne veulent pas intervenir parfois quand je leur propose aussi.
Mais la parité sur ce podcast-là, c'est 16% de non, femmes. Quoi,
attends, je t'explique le truc, Christophe. C'est qu'en général, les mecs, ils sont dans le jeu de rôle depuis les années 80-90. Alors que les femmes, ils sont depuis plus récemment. Et donc, quand on leur propose de participer au podcast de la cellule, elles disent « Ah oui, mais je m'y connais pas encore assez, etc. » Elles se sentent un petit peu... alors que Sylvie, tu vois, elle a pas de problème, apparemment. Hein. Et Flavie non plus, d'ailleurs. Mais voilà, maintenant, je confirme ton intuition. Moi, j'ai la même. Après, il n'y a pas de chiffre précis, mais Sylvie, tu voulais intervenir.
Oui, mais quand même, pour remettre les choses à leur place, sur l'UDESCO, on n'a pas une seule MJ femme qui a organisé une partie cette année. J'ai jeté quand même un petit coup d'œil aux participants. 80% d'hommes quand même, dans les parties jouées. Après, effectivement.
À Eclipse, par exemple, moi, j'ai joué à une table qui était maîtrisée par une fille. Et il y en avait plusieurs. Hein.
Oui.
Donc, voilà. Après, c'est... L'UDESCO, bon, peut-être aussi que c'est pas représentatif.
Exactement,
mais bon,
peut-être.
Après, on parle de la Suisse et du jeu de rôle, et moi, je te parle de Rennes, donc c'est pas beaucoup mieux. Hein. Côté représentativité, je suis un peu nul, là. Hors sujet. Mais bon, en tout cas, je confirme ce que tu disais, Thomas. Et c'est vrai que peut-être... Ouais, il faudrait voir au niveau des MJ, maintenant, t'as raison, Sylvie, de soulever le...
Et il me semble qu'à Orchidée, il y en a quelques-unes, mais... C'est pas non plus encore 50-50. Hein.
Ouais. Bon, enfin, en tout cas, c'est mieux que fut un temps. Enfin, c'est garanti. Je voulais poser une autre question et puis elle m'est sortie d'esprit.
Ah, je peux t'aider parce que Thomas. Moi je voulais juste préciser un truc. On a beaucoup parlé la Suisse, la France.
Ouais.
Et en fait, l'UDESCO et la Chaux de Fonds, donc où a lieu la convention, se trouvent à peu près 15 minutes en voiture de la France. Et ouais. C'est vrai qu'on a parlé des frontières économiques, politiques, mais les frontières sont aussi dans la tête.
Ouais.
Et nous, depuis 2 ans maintenant, on invite des clubs français à participer au festival. On avait la Maison des Jeux cette année de Strasbourg. On avait les gens de Moi je m'en fous la triche de Lyon l'année passée.
Mmh.
Et on veut véritablement aussi pas dire simplement faire une convention pour la Suisse romande. On fait une convention européenne, une convention francophone en tout cas, parce qu'il y a toujours le problème de la langue.
Ouais.
Et pour nous, c'est très important de pas uniquement réfléchir sur le bassin de population suisse, mais aussi français. Mais
d'accord.
On voit que c'est très difficile de en termes de promotion. On sera comment? Je prenais l'exemple, le jour, je suis allé à un concert en France dans un petit village pas loin. C'était la première fois que j'allais dans cette région. Et pourtant, c'est tout aussi près que d'autres villages dont je vais en Suisse.
C'est donc, la communication qui passe pas les frontières un peu.
C'est la communication, mais c'est aussi des barrières mentales. Mmh. Tout à coup, on dit la France, c'est loin. Alors, c'est 10 minutes en voiture, quoi. Et ça, c'est un des trucs qu'on essaie de briser aussi.
Je veux dire, pour faire la communication, là, tu pars sur le blog de la cellule, c'est un podcast francophone. Il y a des Bretons qui t'écoutent, tu leur dis qu'il y a de la bière.
C'est ça qui est génial.
À l'UDESCO, il y a de la bière à la convention. Voilà, c'est bon.
Il y a de la bière très bonne. Est-ce que tu as parlé de la bière BFM? Très, très bonne, la bière.
Délicieuse. Hein. Vous avez tout un tas de bières artisanales ici. C'est délicieux, quoi.
Et voilà.
Franchement, ça, c'est ça. Bon, bah là, ça y est, c'est bon. La communication en Bretagne, l'année prochaine, vous allez avoir un débarquement de Bretons, c'est sûr.
C'est parfait. Et aussi, j'espère.
Dire ça.
J'espère que tu as remarqué aussi par rapport à d'autres événements, et je ne veux pas critiquer d'autres événements, mais nous, ce qu'on a fait attention, c'est aussi de soigner les repas, etc., d'avoir des bons repas chauds et de la bonne bouffe,
j'ai
et pas de la pizza froide ou de la, ou de la quick soup instantanée comme on trouve ailleurs. Pour nous, c'est aussi important que le joueur, que le festivalier prenne du plaisir aussi dans son assiette.
J'ai fait la réflexion à Christophe dès en arrivant. Christophe, je te vois trépigner, je crois que c'est l'heure d'aller faire les parties de démonstration, c'est ça?
Voilà, on a des initiations, et là, c'est vrai qu'on a pas mal de filles et de femmes qui viennent.
D'accord.
Là, dans les initiations, on va voir peut-être si on va pouvoir inverser la vapeur. D'ici les prochaines années, arriver à la vraie parité.
En tout cas, on n'y est pas encore à la parité, mais bon, allez, ça vient. Bon, et merci pour ce petit tour d'horizon de la Suisse et du jeu de rôle et de l'UDESCO. À bientôt tout le monde, merci d'avoir participé à ce podcast, merci Georges, merci Thomas, merci Lionel,
merci, à toi.
Merci Sylvie. Merci
juste
Christophe.
Un dernier mot,
Lionel.
Je dois faire la baleine cosmique quand même pour la cellule.
Allez vas-y, invoque la baleine cosmique. Au revoir à toutes les baleines, à bientôt, salut.